le plus important des dix vrais Torah, c'est que la Torah a dix vrais.
Torah.
En tout cas, pour revenir au... Ça devait être chez les élèves de Rashi. Et lorsque vous projetez sur le problème de la société juive, lorsqu'il y avait les villes juives autonomes dans l'exil, lorsqu'il y avait les juiveries, aujourd'hui il n'y a plus de, n'appelez pas ça des ghettos, mais disons des villes juives, ou sur la société hébraïque aujourd'hui, à la manière des catégories, par exemple, de séparation de l'Église et de l'État sur un problème d'autobus le Shabbat, il y a mal donné, enfin, il y a malentendu. On ne peut pas traiter de ce problème de la même manière. Et, par exemple, dans la société française, et la religion dominante, je ne sais pas jusqu'à quand, parce que l'islam est là, c'est le christianisme. Bon. Mais un chrétien cesse d'être chrétien lorsqu'il ne croit plus dans son catéchisme. Et il est stamp français. Hein? Alors lui a un problème de circulation des métros le dimanche. Hein? Mais un juif ne cesse pas d'être juif lorsqu'il ne croit plus dans son chocolat. Et est-ce que c'est clair? On ne peut pas poser le problème au même niveau. Et alors, il faut aménager la liberté, l'autonomie individuelle par rapport à l'identité de la collectivité, mais c'est la collectivité qui est juive. Et il suffit qu'un individu de cette collectivité réclame son droit à la liberté individuelle d'être authentique pour que les autres, fût-ce l'immense majorité, doivent l'accepter. C'est l'inverse. Je vous donner un exemple. Concret, puis c'est celui que je vis tous les Shabbats. Je crois que je vous la raconte une fois. Il faut tout simplement avoir un peu de doigté dans les procédés municipaux. Voilà, j'habite un immeuble où pratiquement tous les habitants pratiquent le Shabbat, sauf une famille. Et alors, dans cette famille, il y a une petite jeune fille, elle grandit chaque année d'ailleurs, elle change d'âge, mais enfin elle est encore petite. Qui joue du piano. Seulement, elle joue faux. Ah, c'est pas grave. Mais elle joue faux le vendredi soir. Oui. Non, mais il y a comme ça, apprentissage de piano. Et d'ailleurs, ça peut être dit de la mère. Elle joue le vendredi soir. C'est pas grave. Mais elle joue faux le vendredi soir. Et alors, premièrement, il y a une question de problème de civilité en contexte culturel juif, c'est une faute de mauvais goût de jouer du piano faux le vendredi soir chez des juifs. Avant d'être une faute religieuse, je ne sais pas comment dire. Et tout ça, on a désappris. Alors, très gentiment, on a essayé de leur faire comprendre qu'on travaille toute la semaine, le vendredi soir, après la prière, il faut encore manger, mais après, il faut dormir. Pas moyen de leur faire comprendre. C'est le seul soir où elle peut faire cet exercice de piano. On s'est réunis, les Dayarim, les locataires, on a dit qu'il faut trouver un moyen de leur faire comprendre de quoi il s'agit. On a décidé une chose, que le même vendredi soir, on se faisait tous inviter dans la famille ailleurs, et en partant, on laissait la radio ouverte au maximum. Voilà. Alors il a suffi d'une fois, et c'était fini. Le vendredi soir d'après, on a commencé à les inviter chez nous, à savoir qu'est-ce un vendredi soir. Et maintenant, elle joue du piano faux le jeudi matin. Alors, c'est un problème. Je peux vous faire comprendre de quoi il s'agit. C'est un problème de ce genre. Non. Une minute. Vous avez oublié une chose entre-temps. C'est qu'on a passé plusieurs semaines à essayer de lui expliquer de quoi il s'agit. Pas moyen de comprendre. Je suis libre chez moi. Bon, tu es libre chez toi, alors habite dans une maison dont les murs ne sont pas en carton. Si les murs sont en carton, c'est pas chez toi, c'est aussi chez les autres. Mais c'est d'abord à ce niveau-là qu'il faut comprendre, mais il y a un autre élément qui est de nature radicalement autre. Ça ne fait que ressembler, donc ça ne ressemble pas au problème de la liberté de conscience individuelle dans une société goy. Ça ressemble, mais ça n'a rien à voir. Alors j'explique jusqu'à ce que ce soit un peu plus clair. Et le problème des autobus le Shabbat. Je vous donne un exemple. En Israël, en général, sauf, si vous voulez, lorsqu'on est arrivé à l'âge de la retraite ou dans les milieux très très bourgeois, mais on a besoin de son Shabbat quand même, pas toute la semaine on travaille, il faut quand même étudier, et il faut se rendre visite, et puis on reçoit des visites, et donc, si on passe à la synagogue de 8h à midi, il n'y a plus de Shabbat. Bon. J'ai rien dit. Et alors, en général, on se lève à 5h30 du matin pour prier, pour finir à 7h30. Et après, on a la journée du Shabbat. Ça nous fait un repas supplémentaire, mais c'est prévu le Shabbat. Et alors, imaginez ces Juifs qui partent à 5h30, 6h, ça dépend du moment de l'année, quand le soleil est en train de se lever, le silence sur Jérusalem, et vous avez une motocyclette qui casse le silence. Alors, il y a premièrement quelque chose qui tourne pas rond, au niveau de tout simplement la politesse élémentaire humaine. Alors, quand on ne peut pas faire comprendre au motocycliste, parce qu'il n'est pas encore éducable, alors il faut un règlement municipal. Mais le règlement municipal, il est provisoire, jusqu'à ce que le motocycliste devienne civilisé, tout simplement. Est-ce que c'est clair? Alors imaginez qu'au bout de 2000 ans, il y a des Juifs qui sont rentrés à Jérusalem pour que leur Shabbat soit un Shabbat. Et vous avez d'autres Juifs qui ne comprennent pas qu'est-ce que c'est un Shabbat, ils croient que c'est un dimanche déplacé. Et alors, ils font marcher la radio. Vous voyez, et je pourrais multiplier ces exemples, mais il est évident que cet affrontement que le Rav nous décrit, il est réel en lui-même. Mais si en plus on y projette des catégories radicalement étrangères, il devient insoluble. Et c'est un peu l'état des choses au niveau sociopolitique actuellement en Israël.
Pardon, je crois que vous êtes mis sur un problème là qui est très important, parce que si on admet que les États il doit assurer son économie. Puisque nous sommes dans le domaine de Messie Joseph et de Messie de
Judas. Oui, je vous écoute.
Pour puisse arriver à trouver les deux, il faut respecter les deux. Et peut-on servir un État sans respecter son économie? C'est-à-dire, par exemple, dans le cas de la.
Le cas de.
Il n'y a pas le pas servi, il y a le compte d'exploitation qui est
donc la compagnie. Je vous dirais, tous les problèmes que vous avez évoqués par ces différents exemples sont importants pour eux-mêmes, il faut un peu de temps pour les analyser, mais ils font partie du même sujet. Je commence par un petit détail. Dans tous les cas, le compte d'exploitation d'Ella est déficitaire, dans tous les cas. Et dans tous les cas, l'économie israélienne, c'est une histoire de fou et vous savez pourquoi. Et par conséquent, il faut prendre le problème à l'endroit. Hein. Le fond du problème, je crois qu'on pourrait le formuler de cette manière. C'est qu'il y a deux sortes de juifs qui sont revenus en Israël. Ceux qui sont revenus pour être juifs et ceux qui sont revenus pour ne plus être juifs. Et, est-ce que c'est clair ce que je dis? Attendez, non, laissez-moi finir. Barour. Mais il n'y aurait jamais eu d'État s'il n'y avait pas eu le judaïsme. Okay. L'État juif, je veux dire. Tout peut être expliqué, il faut un peu de temps. Et ce conflit-là, c'est le vrai conflit dont le Rav nous parle. Okay. Parce que ce sont les résultats de cette cassure qui a fait qu'il y a eu ces deux sortes de juifs. Je reprends les formules pour les éclairer. Les juifs qui sont revenus pour être juifs, mais ils entendaient eux juifs religieux. C'est-à-dire que religieux. Et qui va leur faire un État? Les goïms. Et les juifs qui sont revenus pour être juifs que nationaux, et qui va leur donner une âme? Les grecs. Alors, en tout cas, à ce niveau de la problématique, l'affrontement est là. Seulement, il n'a pas de solution tant qu'on le pose en langage étranger. Dès qu'on commence à le poser en langage hébreu, alors il y a une issue et c'est notre problème. Mais en tout cas, je vous remercie pour vos questions parce que ça nous montre à quel point ce texte du Rav est vraiment prophétique, c'est-à-dire il concerne les véritables problématiques de notre société contemporaine. Ce qui concerne la question du Shabbat, attendez, je vais commencer d'abord par une image. Pour ma part, je suis persuadé, je le répète souvent, que je vais employer le langage habituel qu'on emploie en hébreu, datim chilonim. Bon, c'est un langage pas non plus approprié. Il y a des chilonims qui sont beaucoup plus croyants que des pratiquants, et il y a des pratiquants qui sont beaucoup plus chiloniques que des non-pratiquants. Bon, c'est un autre problème. Parce que fonctionner toute la semaine comme un grec et aller pieusement le Shabbat à la synagogue, ça s'appelle Dati, je ne sais pas où. Et vous allez me permettre une blague que j'avais dit une fois dans un cours. C'est pas pour détendre l'atmosphère, mais ça contribue. Vous savez qu'il y a un verset des psaumes qui compare le juste à un palmier. Tzadik katamar ifrah. Or, il y a une Mishnah qui dit Veramer kulam tzadikim. Ton peuple, c'est tous des justes. C'est parce qu'il y a deux sortes de palmiers. Le palmier datier, le palmier non datier. Mais les deux, c'est des tzadikim. En tout cas, pour revenir au problème du Shabbat, et ce qu'il faut découvrir, c'est que des deux côtés, le langage est faussé. Il est évident que l'économie de l'État d'Israël doit fonctionner le Shabbat, surtout parce que le pays est en état de guerre depuis avant sa naissance. Et il y a le principe du pikuach nefesh qui joue aussi au niveau de la société. Seulement, vous avez certains des Israéliens qui cherchent les procédés de comportement matimim, homogène au projet de la Torah, comment violer le Shabbat quand c'est nécessaire, mais tout en observant la Torah. Par exemple, j'ai un voisin qui, de temps en temps, est de garde dans un laboratoire qui ne doit jamais arrêter. Le Shabbat, il va habillé comme le jour de Kippour pour travailler. Hein? Tandis qu'un chiloni irait avec sa salopette. C'est pas Shabbat. Comprenez, il y a mal d'homme dans le tempérament. Hein? Mais, alors, qui a le droit de travailler le Shabbat parce qu'il y a pikuach nefesh? Seuls ceux qui habituellement pratiquent le Shabbat, pas les autres. C'est-à-dire, lorsqu'on interdit à un autobus de rouler le Shabbat, s'il faut qu'un autobus roule le Shabbat, alors il faut choisir un chauffeur qui habituellement pratique le Shabbat. C'est au chilonim qu'on interdit de travailler le Shabbat, pas au datim. Vous comprenez? Il faut remettre les choses en place. Par exemple, dans les premières années, dans les kibbutzim, où l'industrie, ce qui n'est pas très cachère d'ailleurs, c'est d'élever des poussins artificiellement. Parce que Tzahar bar Alechaim et Doraïta, cette fabrique de viande à digérer au niveau des animaux, c'est pas très cachère. Bon, c'est un autre problème. Et alors, imaginez que le générateur d'électricité s'arrête en panne à Shabbat. Toute la récolte des poussins est perdue. Alors il faut sauver l'économie du kibbutz. Je sais pas, je pense à un kibbutz dati. Alors on demande au rabbin du kibbutz, devant deux témoins, de lever la manette. Pas n'importe qui d'autre. Parce qu'on sait que le rabbin du kibbutz, lui, pratique Shabbat. Alors lui a le droit de suspendre le Shabbat quand il faut. Vous comprenez? C'est une toute autre mentalité. Mais, etc, etc.
Le datif peut refuser de conduire le bus.
Etc.
Le datif qui ne connaît pas les problèmes peut dire je refuse.
S'il y a nécessité de le faire, il n'a pas le droit. C'est sur un amour. Alors vous voyez qu'on ne peut pas projeter les catégories qui nous sont familières dans le problème l'Église et l'État des sociétés occidentales sur la société hébraïque. C'est pas possible. Bon, je crois que c'est suffisant comme éclairage.
Vous aviez dit hier que ça passait pas par la contrainte.
Ça passe pas par la contrainte pour les gens civilisés. Mais tant qu'il n'y a pas ce niveau élémentaire de politesse dans le sens étymologique grec, d'organisation de la vie dans la cité, la politesse, alors il faut des règlements municipaux qui sont contraignants. Je m'en vais. Écoutez, par exemple, et c'est même pas une question d'ordre d'évidence de la valeur considérée, n'importe quel règlement municipal, si c'est violé, on paye une amende ou on va en prison. Et est-ce que quelqu'un s'est plaint de l'atteinte portée à la liberté individuelle par la municipalité? Je pense que c'est clair. Et je ne suis pas du tout pour la contrainte des partis noirs, comme on les appelle là-bas. Seulement, il faut comprendre de quoi il s'agit dans le fond des choses. Je vais donner un exemple. La semaine dernière, où il y a 10 jours, il y a eu un grand orchestre chrétien des Mormons d'Amérique du Nord, plus un orchestre d'un kibbutz non religieux, qui à Jérusalem ont donné une grande soirée sur la musique du Messie de Handel. C'est comme ça que ça s'appelle? Bon. Il y a un groupe de yeshivistes qui sont entrés en force dans le théâtre et qui ont voulu tout casser. Ils se sont fait emprisonner par la police. Le lendemain, ça recommence dans les journaux, grande campagne, coercition religieuse, kfiya datit, les autres répondent kfiya antidatit, et alors je vais vous dire un peu mon avis sur la question. Et comme par hasard, c'était pas des gens de Netur et Karta, ces religieux-là, c'était des yeshivas sionistes qui font la guerre, qui vont à l'armée. Mais ils ont été tellement outrés qu'une fois Jérusalem redevenue juive, alors on donne un grand opéra de style chrétien sur le Messie, avec en plus un orchestre de kibboutzim, qu'ils ont voulu casser la salle. Et alors, les humanistes ont dit, encore une fois, ces religieux, ça porte atteinte à la démocratie, la honte de l'État, vous les religieux, enfin, vous voyez à peu près tout le vocabulaire. Et bien, je vais vous dire, les deux ont tort. Parce que c'est un scandale qu'on joue cette musique à Jérusalem, sous le drapeau juif. Bon, c'est un scandale. Mais c'est un scandale qu'au lieu de porter plainte au tribunal, on aille casser les chaises. Voilà. Tout simplement. Les deux ont tort. Et alors, tant qu'on reste bloqué dans ces impasses, on n'arrivera jamais à s'en sortir. Il faut voir la vérité où elle est. Les autobus et les pierres de Shabbat. Les deux ont tort. Ceux qui jettent des pierres ont tort et ceux qui violent le silence du Shabbat ont tort. Alors, il faut trouver un moyen de vivre ensemble. Et quel est le vrai problème? Le vrai problème, c'est qu'il y a deux équations personnelles juives qui sont en affrontement. Les forces de Joseph et les forces de Judas. On est revenu au sujet. Vous comprenez? C'est de ça que parle l'Europe. Et je crois que le Midrash aurait dû dire à Jéroboam, si tu te repens, moi, toi et le fils de Ishaï, on se baladera au Gan Eden en autobus le Shabbat. Et alors, Jéroboam aurait dit, et qui va conduire? Ben Ishaï, ça marche pas. Pardon? C'est ce qu'on a appris hier. C'est que, rappelez-vous ce qu'on a appris hier très attentivement. Quand ces deux forces se séparent, elles se caricaturent toutes les deux. Et elles deviennent toutes les deux inauthentiques. Vous comprenez? Jamais on refera une unité avec deux morceaux de chaise cassés. Et on fera un trône avec deux morceaux de chaise cassés. Une unité s'est brisée en deux. Et bien la moitié plus la moitié, ça ne fait pas encore un au niveau de ce dont on nous parle. C'est la raison pour laquelle il faut ce mystère de l'unité pour que ça se reconstitue. Je crois, si vous voulez, peut-être je vous proposerai le schéma suivant. Je crois que ça va se passer comme ça. C'est-à-dire, il y avait cette unité-là qui a été brisée en deux côtés, les uns et les autres, comme d'habitude. Ce qu'on essaye, c'est d'arriver à faire cette unité. Mais je crois que ces deux côtés, tant qu'ils restent comme ils sont, jamais ils arriveront à s'unifier. La preuve, c'est qu'ils se sont séparés. Alors c'est cette unité-là qui va continuer, pendant que ceux-là finiront par finir de se séparer, on n'en parlera plus. Mais c'est leurs enfants qui vont refaire cette unité. Alors je crois qu'il faut déléguer le problème.
Vous trouvez que c'est un scandale de jouer du Hendel à Jérusalem?
Oui. Alors que ça peut être très beau à Paris. Parce que, vous comprenez, le Messie d'un des... Oui, c'est pas pareil. Pas du tout. Écoutez, ça consiste à mettre entre parenthèses ce qu'a subi la sensibilité juive de la part du Messie chrétien pendant 2000 ans. C'est tout. Alors, essayez de comprendre que les Juifs, ça existe, avec leur sensibilité propre.
Et les Juifs eux-mêmes, les musiciens eux-mêmes jouent toutes ces... Les musiciens juifs, les plus grands et même croyants ont joué.
Et bien c'est ça le scandale. Vous voyez comment un homme peut devenir inauthentique.
Les maîtres de Mozart et de Bach, c'est Marc des Perfidas judaïca.
Écoutez, je vous donne un exemple. Je ne sais plus le nom. Il y a un an, à Tel Aviv, il y a eu un grand concert d'un musicien allemand en Asie. Bon, j'ai oublié son nom, je ne sais pas lequel. Alors, au nom de la musique, quand je dis l'idole, au nom de la musique... On s'est opposé à l'idée qu'il fallait interdire un je sais pas quoi, opéra ou je sais pas quoi d'un musicien nazi. À partir du moment où un peuple perd sa dignité de sensibilité, alors qui sont ceux qui sont à accuser, ceux qui veulent empêcher une telle indignité? Mais il y a une manière de l'empêcher. Voilà ce que je voulais dire tout à l'heure. Est-ce que vous comprenez?
Oui, je suis pas tout à fait d'accord.
Expliquez-moi.
Aussi bien en peinture, alors on n'admirerait pas toutes les œuvres.
Ben on ne peut pas admirer la synagogue avec les yeux bandés non plus. Et dans toutes les cathédrales, on voit ça.
Écoutez, vous confondez deux critères. Vous confondez le critère de l'esthétique est le critère de la sensibilité religieuse historique. Okay. Imaginez qu'un jour, dans quelques centaines d'années, j'imagine, il y ait un peintre qui ait envie de montrer l'angoisse, le drame des tortionnaires nazis pendant qu'ils assassinaient des enfants juifs. Ça pourrait être l'époque. Okay. Ça pourrait être une œuvre artistique extraordinaire. Et qu'on montre ça dans un public juif où il y a en partie les descendants de l'escapé d'Auschwitz. Il y aurait une émeute. Alors vous allez avoir un critique d'art qui va dire « Mais ces juifs sont des béotiens. C'est tellement beau, cette angoisse du nazi. » Alors imaginez qu'à des oreilles juives traditionnelles, toutes les formules de la christologie chrétienne mises en musique, c'est plus que gênant. À Jérusalem. Alors c'est trop. C'est de la provocation. Alors vous voyez, tout ça ce sont des exemples un peu ponctuels, mais nécessaires, du problème que le rab pose, c'est clair. Vous avez une partie du peuple juif qui n'est sensible qu'à ce qu'il y a d'analogue entre l'identité juive et l'identité non-juive. Et vous avez une partie du peuple juif qui, à force de rester fidèle à ce qu'il n'y a pas d'analogue, à ce qu'il y a de pas analogue, ne voit plus ce qu'il y a d'analogue. Et grosso modo, c'est ce drame-là. Ken ? Oui, eh bien, ça fait partie de ce scandale dont je parle.
Dans quelle mesure l'histoire des Vénétiques n'est pas pour finir l'histoire personnelle pour chaque individu ?
Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les histoires personnelles ne sont que la transposition de cette histoire. Toutes les histoires personnelles. Non, vous voyez, je vais reprendre une autre analyse parce que je pense qu'au fond on est allé trop vite lundi et mardi, puisqu'il y avait énormément d'implications qui étaient restées en suspens. Non, il faut que tout le monde comprenne tout. Et que il y a deux catégories de l'intelligence dans le vocabulaire hébraïque. Une qui s'appelle Bina et qui permet de comprendre les différences entre des données. On traduit en français l'intelligence, en hébreu ça veut dire le discernement qui permet de distinguer entre une chose et une autre. Il y a une autre catégorie de l'intelligence qu'on appelle en hébreu la chochma, qu'on traduit par la sagesse, et qui est le niveau de compréhension en quoi deux choses différentes c'est les mêmes. Et je crois qu'il y a là une confusion à éclaircir. On ne peut aborder le niveau d'intuition, de très grande sagesse, que finalement, un juif et un non-juif, c'est la même chose, qu'après avoir compris le niveau de discernement, que ça n'a rien à voir. Je pense que c'est clair. Il faut d'abord savoir que ça n'a rien à voir. Après, on comprend que c'est la même chose. Alors, si on met les choses à l'envers, c'est à l'envers. Et je crois que j'en avais parlé une fois en donnant un deuxième exemple, parce que tout ça, c'est dans Saint Paul. La différence entre les hommes et les femmes. Un homme, c'est pas une femme, une femme, c'est pas un homme. Au niveau de Bina, au niveau de Chorma, c'est la même chose. Et il y a des versets dans Saint Paul qui disent « Ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. » Et une fois, je discutais de ça avec un théologien chrétien, et je lui avais répondu comme ça, innocemment, « Eh bien, quand il n'y aura plus ni homme, ni femme, il n'y aura plus ni juif, ni grec. Mais tant qu'il y a des hommes et des femmes, il y a des juifs et des grecs. » Bon, vous comprenez l'implication. Il y a des différences de nature. Et la définition de l'impureté, c'est de mélanger les choses différentes. Ça ne signifie pas qu'à un niveau de sagesse, il y ait évidemment plus une unité totale. C'est cela qu'il faut comprendre. Pour revenir à notre sujet, un juif de Joseph et un juif de Judas, c'est très différent. La preuve, tous les problèmes dont nous parlons. Mais à un certain niveau, et c'est cela qu'il faut retrouver au niveau de l'identité hébraïque, c'est la même chose. L'un, c'est le fils de Jacob par Rachel, et l'autre, c'est le fils de Jacob par Léa. L'un et l'autre, c'est Amer Kulam Tzadikim. L'un et l'autre, c'est Bnei Israël. Mais ces affrontements-là, il fallait les expliquer, parce que nous avons eu une parenthèse de 2000 ans, et qu'au bout de la parenthèse de 2000 ans, Ça, c'est ce que j'ajoute aujourd'hui, d'après les questions qu'il y a eu ce matin. Nous avons projeté sur ce problème des catégories qui ne sont légitimes que dans d'autres sociétés. Je voudrais ouvrir une parenthèse quand même. Je pense personnellement que la catégorisation hébraïque était la catégorisation légitime de toutes les sociétés à l'origine. Et qu'elles l'ont perdue. Mais en tout cas, c'est resté dans le monde de l'islam. Et s'il y avait des musulmans dans la salle, ou si vous connaissez des musulmans, parlez-leur de ces problèmes. Et vous verrez que leur réaction, s'ils sont pas assimilés, bien entendu, la réaction est très formellement identique, plus qu'analogue, à la réaction hébraïque. On ne peut pas couper la Oumma islamique en société civile et société religieuse. On ne peut pas non plus couper la Oumma hébraïque en société civile et société religieuse. Et à l'origine, très certainement, si certains d'entre vous ont étudié l'histoire des sociétés dites primitives, je dis dites parce qu'elles ne sont pas primitives, elles sont premières, eh bien, il y a une unité de l'anthropos de l'homme, à la fois au niveau religieux et au niveau politique, dans ce sens que chaque société se distinguait des autres et au niveau de sa religion et au niveau de sa vie politique. C'est ce qui est resté, en tout cas, dans la société hébraïque à proprement parler. Y a-t-il une autre question à ce sujet? Sinon, on enchaîne dans le cas. Très bien. D'ailleurs, je crois qu'on n'avait pas quitté le sujet. Voilà. Vous avez donc, à partir de Irache Labarina, s'il en est ainsi,
je refuse,
qui était la réponse de Jéroboam à ce que Dieu lui dit dans ce midrash, « Umize nimshecha ashalshelet » C'est de là qu'a procédé ashalshelet, la chaîne « shel tsarotehen shel Israël ou pizuram » des tsarot d'Israël, tsarot des malheurs et de leur dispersion. « Pizur » c'est exactement le mot hébreu pour dire « diaspora » dans le sens étymologique. « Les phaser » dispersé. Betachlit Marouk Agalut Ad Et Ketz. Et la finalité de la thérapeutique, je vais après expliquer le mot en hébreu, de la catharsis de l'exil jusqu'au temps de la fin de l'exil. Ça veut dire que l'exil était une sorte de dimension de, comment dire, donner des soins à, de catharsis, de cette maladie qui a atteint l'identité hébraïque dans son unité. Comme si le Rav nous rappelle ici que nous sommes partis en exil pour nous guérir de cela. Et alors il va décrire très exactement les étapes de cette catharsis. Alors je vais aller un peu lentement pour être sûr que ce soit clair pour tout le monde. « Umize nimshecha » je répète la phrase, Achalchelet shel tsarotehen shel Israël ou Pizuram, betachlit maruk agalut adetket. La racine, les marek, ça veut dire adoucir quelque chose qui est trop fort. Par exemple, on nous dit que les vertus ont pour objet les marek et ayetzerara. Comment dire, le atténuer ce qu'il y a de, à la limite, guérir. Par exemple, tamroukin, c'est, comment vous appelez ce que, les phares, comment on appelle ça? Tamroukia, c'est une parfumerie. Là où il y a les, je sais plus comment dire en français.
Le maquillage,
il y a les cosmétiques, okay, voilà. Tamroukin, vous avez ce mot dans la Megillah d'Esther, tamroukin. Elena Rubinstein. Et celle-là, c'est une juive de Joseph.
Okay.
Oui, oui, oui. Ouvrez tout ce que vous pouvez.
Alors, il faut
aller chercher la fenêtre.
Il y a du bruit. Mais si on ouvre dans l'autre, ça, il n'y aura pas de bruit. Elles sont bloquées. Alors, il faut aller chercher la clé. Donc, elle est là, mais on est en train de faire du bruit. On est assis. Il suffit d'aller demander la clé. Ici, le bruit gêne, mais dans l'autre, ça, le bruit gêne.
Alors, il faut aller chercher une clé. On ouvre dans l'autre salle.
Et là, on peut pas ouvrir.
Et si on ouvre là,
on continue.
Oui, Alken.
Alken, c'est pourquoi. Omed Bekol Mesher Zman Agalut va se perpétuer pendant tout le temps de l'exil. Amatsav Aklali, la situation générale, chez la Ouma de la nation, Bederech Nigudi, chez l'Elech Neakocho, dans un affrontement d'opposition entre ces deux forces. Le Rav nous rappelle ici que pendant tout le temps de l'exil, la société juive a été, partout où elle a été, quel que soit le style de son histoire, que ce soit en Espagne, en Pologne, en Hongrie, au Maroc, là où vous voudrez, une espèce de lieu de creuset, de laboratoire, d'essai, de tentative d'arriver à faire cette unité, et qu'elle a toujours été travaillée par ces deux forces de séparation, par cette force de séparation et d'opposition entre ces deux. Peut-être qu'il faudrait ajouter que c'est évidemment le problème de l'identité humaine en général, mais que, en dehors d'Israël, j'ai cité le cas de l'islam en référence, c'est partout définitivement échoué. Partout, ces deux forces se sont définitivement coupées. C'est-à-dire le dualisme, qui est par exemple la structure évidente sur ce sujet de la société occidentale. L'idée qu'il pourrait y avoir une unité de valeur entre l'engagement spirituel et l'engagement politique, c'est un scandale pour la culture occidentale, parce qu'elle s'est habituée à travers 2000 ans à ce principe du dualisme qui a été installé par la culture romaine. Je pense que c'est clair. Et alors le Rav nous dit ici que précisément c'est ce problème qui travaille la société juive dans le creuset de l'exil, et il est normal qu'au retour, eh bien, les deux représentants escalités arrivent ensemble et s'affrontent. C'est Judas et Joseph, comme nous l'avons vu dans les textes de la Genèse que nous avons lu hier matin à la suite de questions qui m'avaient été posées en fin de cours. Vous vous rappelez de cela? La rencontre entre Judas et Joseph. Vaïga, Shela, Yehuda, Vayomar. Vous vous rappelez du verset? Lorsque Joseph, finalement, oblige Judas à le reconnaître comme le roi temporel, et c'est quand Judas reconnaît Joseph comme le roi temporel que Joseph va reconnaître Judas comme le roi spirituel. C'est compris. Tout cela est important à retenir pour l'étude de ce soir dans le sujet général. Et vous comprenez à quel point on ne peut pas, dans une conférence publique, rentrer dans tous ces détails. Parce que ça vous donnera le contenu même de ce qui a été transformé en figure mythique dans les catégories de la messianité chrétienne. Puisque le Messie des chrétiens est censé cumuler toutes ces royautés-là. Vous vous rappelez de cela? Mais à un niveau d'objet de croyance, comme nous le verrons plus exactement ce soir, alors qu'au niveau de l'identité hébraïque, c'est un fait d'existence et non pas objet de croyance. Je vais dire déjà, vous répétez, si je l'ai déjà dit, une formule qui me semble très éclairante sur ce point, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de l'utiliser ce soir, c'est que les juifs sont censés être, en tant que peuple, ce en quoi les chrétiens croient dans leur croyance au Messie. C'est-à-dire, l'identité messianique est objet de croyance, de foi, qui se veut salvatrice en tant que foi chez le chrétien, alors que c'est un fait d'existence dans l'identité juive. Vous voyez qu'on ne peut pas confondre ces deux niveaux. Le langage judéo-chrétien est impossible. Parce que le contenu de ce qui est dit renvoie à l'existence historique d'Israël, alors qu'il est objet de foi pour la conscience chrétienne. Ou d'une autre manière, la messianité est un fait de conscience chez le chrétien, c'est un fait d'existence chez le juif. Encore une fois, la même formule, si vous voulez, le juif est censé être ce en quoi le chrétien croit. Bon, c'est l'histoire d'Israël qui est racontée dans l'objet de foi du chrétien à un niveau devenu mythique et comme tous les mythes dévastateurs. Bien. Et voilà donc cette phrase du Rav ici. La société juive est donc, semble-t-il, destinée à être travaillée par cette maladie de la séparation des pouvoirs, si j'ose dire.
Le monde de la chrétienté
n'est
pas le monde de l'Odette.
Vous voyez comment on va être gêné par le vocabulaire. Hein. Il y a une différence entre ces deux expressions. le monde de la chrétienté et la société occidentale. Okay? Mais le monde de la chrétienté en tant que tel, pour employer cette dénomination que vous avez donnée par Joseph, c'est un Joseph qui serait devenu égyptien, alors que le Joseph hébreu n'est pas devenu égyptien. Et ça, nous en parlerons ce soir un peu plus en détail. Mais en réalité, c'est beaucoup plus, typologiquement, Ésaü, l'antagoniste de Jacob. Mais de cela, nous parlerons plus peut-être ce soir ou dans les autres matins. Ok ? Si, si j'ai bien compris, je n'ai pas tout entendu. Mais cette règle est entendue comme un règlement municipal.
Alors,
oui, oui. Oui. Oui, mais je pense que pour la société israélienne, et en particulier, disons, pour Jérusalem, ça ne peut être qu'une phase transitoire. Parce que, en fin de compte, c'est pas du tout dans l'intention des rabbins de faire que les lois de la Torah deviennent des règlements municipaux. Vous comprenez ? Donc ça ne peut être que provisoire.
Mais c'était pas là le problème.
Non, je crois que le problème actuel, pour permettre, si vous voulez, la réalisation de cette réunification de l'identité hébraïque, c'est qu'il nous faut un stade de civilité, je ne sais pas comment dire, de convivialité entre ces deux sortes de juifs. Et là, le règlement municipal, c'est la réponse.
La Torah de Moïse n'était pas en partie un règlement municipal.
Dans un. Et, si vous voulez, à la rigueur, dans un stade très inférieur de conditionnement pédagogique. Disons au niveau municipal aussi, parce que l'identité religieuse, spirituelle dont il est parlé, finalement s'effectue à travers des corps humains qui vivent en société. À ce niveau-là, ça peut être une pédagogie, non, une stratégie, si vous voulez, mais ce n'est pas l'objectif ultime. Je vais vous dire le. D'accord. Le règlement municipal vient de Jethro. Peut-être il faudrait éclairer par un autre exemple, mais il me semble que c'est suffisamment mis en évidence. Je reprends, si vous voulez, l'analogie sociologique que j'avais indiquée avec la société française. Et encore une fois, je pense qu'il faut que ce soit bien clair. Lorsqu'un Français cesse d'être chrétien, il n'est plus que Français. Tandis que lorsqu'un Juif cesse d'être pratiquant de sa religion juive, il reste juif dans le sens de l'identité profonde de sa collectivité du point de vue de Joseph. Et on ne peut donc pas projeter la problématique de conflit telle qu'elle serait, par exemple, dans la société d'Allemagne du Sud ou dans la société de France, entre des revendications contre des règlements municipaux qui seraient en réalité des dispositions ecclésiastiques qu'on aurait transformées en règlements municipaux. Je vais donner un autre exemple. Par exemple, le problème de l'authenticité des conversions au judaïsme. Vous savez que c'est une question qui agite la société israélienne depuis toujours et ce n'est pas fini. Je me souviens d'une intervention de Golda Meir, qui, lorsqu'elle était chef de gouvernement, et que cette question s'est posée, la question qu'on appelle en hébreu mi-ou-yéhoudi. Qui est juif? Comment le définir? Au niveau d'un règlement de type municipal ou bien au niveau d'une identification beaucoup plus halachique, c'est-à-dire du point de vue de la loi religieuse. Et alors, vous savez très bien que Golda Meir faisait partie du Mapai, c'est-à-dire des juifs de Joseph, c'est-à-dire des juifs qui se définissent comme étant les juifs de la nation et pas du tout de la Torah. Mais comme elle avait compris, au niveau de sa responsabilité de chef de gouvernement, que c'était un problème d'identité nationale et non pas un problème de liberté de conscience individuelle, elle est intervenue de la manière suivante en disant « Je ne donnerai pas la main à la dénaturation de l'identité juive, même si moi je ne pratique pas la Torah. Il ne faut pas qu'on me change la Torah que je ne pratique pas. » C'est ça qu'il faut comprendre. Et je me rappelle très bien de cette phrase. C'est-à-dire, encore une fois, le juif Triloni, qui serait gêné par un règlement municipal à Jérusalem concernant le Shabbat, sait très bien qu'il s'agit finalement d'un règlement religieux et pas d'un règlement municipal. Quel, mais très rapide.
Au sujet de Yigudim, comme ça j'ai entendu, au moment de Pessah, au moment où on fait la sortie d'Égypte, où sur la table du Seder, il y a les différents
Expliquez-moi plus, parce que... Comment vous écrivez ça? Comme ça? En tout cas, c'est pas moi qui peux vous la donner, j'ai jamais appris ça. Quelqu'un voit de quoi il s'agit? Donc, si vous avez un livre, vous me le montrerez. C'était oral. Je ne vois vraiment pas de quoi il s'agit. Non, je pourrais vous inventer une explication, mais comme je ne connais pas la question... Alors, on continue. Et voilà comment s'exprime ce conflit. Et peut-être que je voudrais ajouter une phrase. C'est que dans la société non-juive, finalement, le conflit a une issue. On se sépare. L'Église, c'est l'Église, l'État, c'est l'État. Tandis que dans la société juive, on ne peut pas se séparer, parce que tous les juifs sont sur le même bateau, comme on dit vulgairement. Okay? Et que, a priori et définitivement, même si le consensus des juifs entre eux, que tout juif est juif, et c'est mystérieux, puisque on ne peut pas donner simultanément deux définitions contradictoires, mais les deux sont vraies. Si ce consensus ne vient pas de l'intérieur de la communauté elle-même, il est imposé de l'extérieur. Par exemple, les lois de Nuremberg. Et pour faire bon poids, on a mis avec les juifs aussi des non-juifs. Mais pour être sûr que tous les juifs y seraient. Vous comprenez, vous rappelez de quoi il s'agit. Alors voilà comment ça se réalise dans l'histoire, nous dit le Rav. Shelif Amim Midgale Netia Le Jose Kaleumi. Parfois, ce qui se dévoile, Midgalé, c'est une tendance à renforcer le côté national. Alors on devient aveugle au côté spirituel. Par exemple, la renaissance de l'hébreu, en Europe en particulier, elle s'est faite a priori et systématiquement au niveau de sujets profanes. Et pourtant c'était l'hébreu qu'il fallait ressusciter. Mais on n'a pas... Vous voyez, étant donné qu'on l'a considéré comme le véhicule de l'identité nationale d'abord, culturel national, alors systématiquement, on a parlé grec en hébreu. Vous voyez à peu près l'exemple que ça peut représenter. Or, cet hébreu était indispensable pour la vie religieuse, pas pour la vie profane. Parce que pour la vie profane, on peut parler l'anglais. C'est-à-dire que ça a énormément servi au développement des études traditionnelles, cette renaissance de l'hébreu. Mais ce n'était pas l'intention de ceux qui ont ressuscité l'hébreu. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? C'est-à-dire, ils y ont vu le côté national. Je voudrais faire peut-être un schéma correspondant.